étude biblique du jeudi 30 mars 2016 avec le pasteur Jacky Leprat. Le thème, le monde invisible, les anges et les démons.
Nous allons d'abord faire une lecture, une introduction avec l'Apocalypse, chapitre 12 et verset 7. De temps en temps, je vous citerai des versets, vous pouvez noter la référence si vous avez un cahier de brouillon. Je vous les citerai, on ne lira pas tout parce que ça va nous faire perdre trop de temps. Il ne faudrait pas qu'on dépasse une heure. Alors, Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel, ou Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, c'est le diable, vous savez, et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Jour et nuit. Hein. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. » Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui combattez dans les cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Là, c'est un texte quand même pour l'avenir. Un avenir qui peut être proche, évidemment. Alors, on va parler d'abord des anges, et après on va parler de Satan et des démons, le monde invisible, des personnes du royaume des cieux, qui ont une grande intelligence, une grande force. D'abord, parlons des anges. Les anges sont des créatures, ils ont eu un commencement. Comme nous. Je cite Néhémie chapitre 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux et les cieux des cieux avec toute leur armée. Et quand on parle de l'armée, ce ne sont pas des soldats, ce sont les anges. Les cieux des cieux et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc les anges sont des créatures comme nous et non pas des dieux. Je vais insister un petit peu après là-dessus. Colossiens, chapitre 1er, Dieu a créé les choses visibles, invisibles, trône, dignité, domination, autorité par le Christ. Et quand on dit les trônes, les dignités, les dominations, c'est les anges bons, et les anges devenus mauvais, qui ont conservé une hiérarchie, avec des trônes, des seigneuries, des dominations. Alors les anges, ce sont des esprits. C'est-à-dire, ils n'ont pas un corps physique comme le nôtre. Des esprits, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont rien que tes pensées, puisqu'ils peuvent apparaître. Ils sont invisibles. Ils peuvent devenir visibles si Dieu le permet. On l'a vu dans la Bible souvent. Hein. Avec Abraham, il y a des anges qui apparaissent avec Dieu. et avec l'ange Gabriel qui annonce à Marie la naissance de Jésus, elle a vu vraiment l'ange Gabriel, c'est pas une idée, elle l'a vu venir chez elle. Donc ils sont visibles ou invisibles. Ils sont invisibles notamment quand ils nous protègent. Ils nous protègent souvent. Ils sont envoyés pour servir les chrétiens ou les futurs chrétiens. Ils sont envoyés pour une protection, une assistance, et on ne les voit pas. Je vous dirai quelque chose après, plus tard, pour vous dire que certainement, vous comme moi, on a eu des interventions d'anges et on ne l'a pas bien réalisé. Enfin, ça nous a surpris parfois. Les anges également, n'oublions pas qu'ils rendent un culte à Dieu, ça c'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 22, ils rendent un culte à Dieu avec nous. Au culte, quand on est rassemblé, on s'approche des myriades d'anges, on s'approche des esprits des justes qui sont déjà parvenus à la perfection. On s'approche de la Nouvelle Jérusalem. Donc on n'est pas loin dans le culte. Et probablement que, même certains, dans les textes, les anges sont au milieu de nous, mais on ne les voit pas. C'est peut-être bien comme ça. Ils sont aussi appelés fils de Dieu. Je pense à Job, quand les fils de Dieu sont venus devant lui, devant Dieu, eh bien c'était des anges. Et le diable est arrivé au milieu d'eux. On les appelle aussi des vents, ou ceux qui veillent. Daniel chapitre 4, verset 10. Ceux qui veillent, surveillent la marche du monde, la marche des peuples. Il y a le travail actuellement, hein, la marche de l'Église. On les appelle, donc je vous l'ai dit, trône, seigneurie, autorité, puissance. Il ne faut pas confondre ces anges avec les esprits des justes, c'est-à-dire des chrétiens qui sont morts maintenant, des croyants qui sont morts maintenant et qui sont arrivés devant Dieu. C'est différent quand même, faut pas se tromper. Nous ne sommes pas des anges. Jésus dit que nous serons comme les anges, sur certains points. Mais nous ne sommes pas des anges. Vous le savez, hein, souvent, les maris disent à leur femme, t'es pas un ange, ou vice-versa. L'être humain a été créé inférieur aux anges. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 2, verset 7. Et psaume 8, il a été créé inférieur, mais il deviendra supérieur aux anges. Et même, c'est Jésus qui le dit souvent, nous jugerons les anges. Nous ne jugerons pas les bons anges. L'archange Michael, là, on ne va pas le juger. Mais on jugera, nous, parce qu'on a été leur victime, nous jugerons les mauvais anges, qu'on appelle des démons. D'accord ? Il y a aussi d'autres anges, je ne sais pas comment les appeler, vous savez, on n'est pas encore arrivé, on ne sait pas tout. Il y a d'autres êtres célestes, voilà. Notamment, il y a les chérubins. Vous connaissiez ce mot. Chérubins, on les voit dans le jardin d'Éden, ils gardent le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. Sur l'arche de l'Alliance, ce coffre, en acacia, recouvert d'or, intérieur, extérieur, il y a de l'or. Sur le couvercle, il y avait deux statues de chérubins, des anges, avec des ailes qui se rejoignent, et Dieu parlait entre les deux. Donc, ces statues représentent une réalité. C'est Dieu qui l'a voulu. Et le rôle des chérubins, le mot chérubin veut dire couvrir, garder. Donc ce sont les gardiens du trône, les gardiens du trône de Dieu. Peut-être que Satan, on a ça dans Ézéchiel 28, était un chérubin protecteur. On a ça. Donc un gardien important dans le royaume de Dieu. Il y a aussi, alors je passe, on ne va pas trop s'étendre sur tout ça, il y a aussi les séraphins. On a ça dans Ésaïe chapitre 6. Les séraphins, le mot séraphin veut dire brûlant, comme les serpents brûlants. C'est différent, hein. Brûlants. Ils ne sont pas mous, ils sont brûlants. Ils sont comme des flammes de feu. Mais ils ont un visage, ils ont des ailes, ils ont des pieds, ils ont des jambes. Ils se tiennent, c'est ça qui est surprenant, les séraphins, au-dessus de Dieu. Ils exercent un ministère au-dessus. Dans Ésaïe, ils dirigent l'adoration. Saint, Saint et l'Éternel, le Dieu de l'univers. Hein. Ils purifient les lèvres de Ésaïe. Donc ils purifient les, on pourrait dire, au sens plus large, les serviteurs de Dieu. Et jour et nuit, ils sont dans l'adoration, la contemplation de Dieu, qui dépasse toute connaissance. Et puis, il y a aussi, après les séraphins, il y a aussi des êtres vivants. On n'a pas trop de précision. Des êtres vivants qui sont autour du trône. On a ça dans Apocalypse chapitre 4. Alors, ils sont étonnants, ces êtres vivants, je ne vais pas vous en parler beaucoup. Ils ont un aspect de lion et de veau et d'homme et d'aigle. Alors, on a pensé que c'était les représentants de la création de Dieu, la création animale, parce qu'elle est importante, la création animale. Ce n'est pas des petites babioles de rien du tout, c'est quand même des chefs-d'œuvre. Et on les retrouve représentés dans le ciel. Et puis, toujours la liste des anges, il y a les archanges. Alors ça, c'est important. Il y a des anges et les archanges. Alors, l'archange que tout le monde connaît, ben c'est l'archange Michel, Michael. On a dans l'Apocalypse chapitre 1, non, Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Le Seigneur reviendra au son de la trompette, à la voix d'un archange. Qui sont ces personnages archanges pour déclencher le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, l'avènement du Christ? Étonnant. Hein, la voix d'un archange. Michel, c'est sûrement le plus important. Il est, d'après le livre de Daniel, il est le chef de la nation d'Israël. Il protège Israël. Donc il a un rôle de protection. Et dans l'Apocalypse, nous l'avons lu tout à l'heure, Apocalypse 12, il sera en guerre contre Satan, il sera vainqueur, donc ils ont une grande importance, ces personnages, ils ont une autorité, une puissance, une intelligence qui nous dépasse, et c'est eux qui déclencheront l'avènement du Christ. Alors je ne sais pas, parfois j'essaie d'imaginer comment peuvent-ils lutter contre les démons? Parce que nous, c'est pas palpable, ça. Comment ils arrivent à repousser, à défaire l'armée de Satan? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est mystérieux. Hein. Parce que ce n'est pas physique, ce n'est pas des armes contre armes, ce n'est pas des mains contre des mains, c'est mystérieux. C'est certainement autorité contre autorité. Oui?
Qui dit, enfin, que le Seigneur te réprime.
Oui,
que,
Jude.
Ça, parole, enfin,
oui, c'est l'archange Michel, ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. J'en dirai un mot après, mais c'est vrai que quand l'archange Michel, c'est lui encore, là, qui dit cela à Satan, que l'Éternel te réprime, il ne dit pas je te réprime. Bon à rien, il parle pas à Satan d'une manière exagérée ou méprisante, pas du tout. Que l'Éternel te réprime. Là, on a beaucoup de choses à apprendre. Il laisse le Seigneur faire. Oui, c'est bien. Donc, voilà, je parlais des archanges, mais on va y revenir. Aussi, parmi les êtres célestes qu'on appelle anges, il y a aussi ceux qui veillent. Daniel, chapitre 4, verset 13. Ceux qui veillent. On a l'impression qu'il y a peut-être des anges qui observent la marche des temps, la marche du monde. Je vous redirai dans quelques instants que les anges ne sont pas partout. Vous savez, j'ai entendu des chrétiens parler des anges et de Satan, et j'ai eu le sentiment qu'ils prennent les anges pour des dieux et qu'ils prennent le diable pour un dieu, le dieu du mal. C'est une hérésie complète. C'est une erreur magistrale, parce qu'il y a un seul Dieu, Dieu unique. L'autre, ce n'est pas Dieu. Il est limité, il a ses faiblesses. Je vous les dirai. Donc, ceux qui veillent, alors on a pensé évidemment à l'Église. Quand Jean il écrit dans les Églises, il dit « Écris à l'ange de l'Église de Thyatire, de l'Église d'Éphèse ». Y a-t-il un ange qui peut-être surveille chaque église, qui est en combat spirituel, hein, vous savez bien ce que ça veut dire. Hein. Donc voici à peu près une petite liste là, de ces personnages. Et dans ces personnages, on a remarqué qu'il y a une hiérarchie. Il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre chez Satan, c'est très ordonné, c'est très méticuleux. Mais c'est pour ça que ça marche, c'est Jésus qui l'a dit. Quand il n'y a pas d'ordre, même dans une église, ça ne marche pas. Et Satan est très organisé parce que son royaume ne pourrait pas subsister. Je pense qu'avec Jude 9 qui a été cité là, l'archange Michel a une autorité supérieure. C'est un des principaux chefs des anges, dans Daniel chapitre 10. Et ici, Michel, on a lu dans Apocalypse 12, Michel et ses anges. Michel, Michael et ses anges. Quand l'ancien, dans le livre de Daniel, là, l'ancien des jours qui lutte contre le roi de Perse, là, ou un démon, eh bien, il dit Michael, un des principaux chefs des anges, est venu à mon secours. On ne connaît pas tout. Hein. Les anges sont créés, je le répète. Donc, ils n'ont pas tous les attributs de Dieu, toutes les qualités de Dieu. Ils ne savent pas tout. Ils ne sont pas partout à la fois. Ils ne sont pas tout puissants. Ils sont extraordinaires par rapport à nous. Nous, à côté, on est des petits escargots. Puis eux, ben, c'est autre chose. Hein. Ils resplendissent d'une façon extraordinaire. Mais ils ont des limites. Ils ont été créés. Sinon, on pourrait penser que Dieu a donné ses attributs aux anges. Ce n'est pas vrai. C'est que lui qui sait tout, qui voit tout, qui peut tout. Alors, ce sont des petits points que je vais vous citer, hein, des petites questions. Combien y a-t-il d'anges ? Au Mont Sinaï, ça c'est dans Deutéronome 33, les saints anges sont par myriades. Alors, myriades, ça veut dire grand nombre. Au Mont Sinaï. Le psaume 68 dit, les chars, parce qu'il y a aussi des chars, il y a les anges, puis il y a les chevaux et des chars. Voilà, on lit tout ça dans la Bible. Les chars de l'Éternel se comptent par milliers et par milliers. Donc, il n'y a pas de chiffres. Hein. Dans le culte que nous menons à la chapelle, il y a des anges par myriades. Voilà tout ce monde qui nous environne. Et dans l'Apocalypse chapitre 5, Jean a entendu la voix de beaucoup d'anges, des myriades de myriades. Ce sont sûrement des millions. Alors n'oublions pas que Satan a fait tomber un tiers déjà. Mais enfin, il en reste. Pardonnez-moi si je vais un peu vite. Mais il y a une question qu'on pourrait poser. Y a-t-il des anges gardiens ? Vous avez entendu ça souvent, hein, les anges gardiens. On n'a pas beaucoup de textes, attention. On a quand même deux textes, trois. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On ne peut pas assurer que c'est un ange gardien. Il peut être là simplement parce qu'il y a un danger. Et il les arrache au danger. Et il y a aussi le psaume 91, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc il y a des anges qui nous qui nous aide à avancer. Et puis, il y a Matthieu 18, à propos des enfants. Leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 10. Donc, c'est vraiment, ça veut dire que les enfants ont des anges qui les protègent. Je ne dis pas que c'est automatique à 100%, que dans le monde, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'accident. Je me souviens dans ma petite enfance, j'étais très petit, et puis on partait jamais à l'école sans avoir 5 centimes dans la main. C'était les centimes d'autrefois. Certains ont connu. Et puis, 5 centimes. Avec ça, on achetait des carambars. Puis un jour, j'ai fait tomber cette petite pièce au milieu de la route. On était à 1 mètre de la route. C'était terrible. Je passais mes vacances avec un harnais. Parce que ma mère disait, si je ne mets pas de harnais, vous allez vous faire écraser. C'était une nationale. Et on n'avait que 1 mètre pour jouer toutes les vacances. C'était quand même pas facile. Alors, ce jour-là, je vais à l'école avec ma petite pièce. Ma pièce tombe sur la route. Je reprends la pièce face à une voiture. Je vois la voiture venir. Puis après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Enfin, je suis là. Alléluia.
Amen.
Étonnant, hein? Ça m'est resté gravé. Je mourrai avec ça. Parce que ce jour-là, je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas été renversé. Leurs anges voient la face de mon Père. Alors, malgré ces trois textes que je vous ai cités, il n'y a pas de texte absolument clair qui montre que nous avons des anges gardiens en permanence qui nous entourent, mais qui sont certainement pas loin quand il y a un danger. Oui, ça je pense. Il faut parler aussi sur la puissance des anges. Psaume 103, louez l'Éternel, vous, ces anges qui êtes puissants en force. Ils ont une puissance pas infinie, mais une puissance très très grande. Mystérieuse, puisqu'ils combattent les puissances diaboliques, puisqu'ils peuvent provoquer des jugements à grande échelle sur la terre. Ils ont une puissance extraordinaire. Nous l'avons lu. Maintenant, il y a un ange particulier. Il faut dire un mot. Vous savez lequel? Raphaël, ce n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, on n'a pas beaucoup de noms d'anges dans la Bible. Gabriel, Michel, Michael, et puis l'ange de l'Éternel. Oui. Comment? Et Satan. Mais lui, Satan, on va le mettre de côté. Ah non, 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 non. Mais il y a des anges. Alors, il y a des écrits qui ne sont pas reconnus, qui sont apocryphes, et dans lesquels il y a des noms d'anges, mais bon, nous, on ne les a pas dans notre Bible, quoi. Donc, on ne les a pas. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas l'étiquette qui compte. Oui, parlons de l'ange de l'Éternel. On le voit dans tout l'Ancien Testament qui apparaît. Et cet ange de l'Éternel qui prend une forme humaine, quand on regarde bien les textes, c'est une manifestation visible du Christ. Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Agar, qui fuyait Sarah et Abraham, et que l'ange a promis une descendance, Agar, elle a dit, l'Éternel, que l'Éternel lui avait parlé, et que c'était Ata El Roi, l'Éternel qui me voit. Elle a vu cet ange et elle a dit, c'est l'Éternel qui me voit. Quand l'ange apparaît au buisson ardent avec Moïse, l'ange dit, je suis le Dieu de tes pères, de tes ancêtres. Donc c'est une manifestation visible de Dieu, je dirais plutôt du Christ, parce que c'est lui qui est visible. L'ange de l'Éternel, on le voit aussi avec Jacob. Quand il apparaît à Jacob, il dit « Je suis l'ange ». Non, il dit « Je suis le Dieu de Bethel ». Donc il est identifié au Fils de Dieu qui aurait revêtu un aspect humain, un corps humain. Et on le voit avec le repas d'Abraham. Il mange avec Abraham, pas avec Sarah, c'est qui était restée cachée dans la tente. Ça va pour ces, jusqu'à maintenant ? L'ange de l'Éternel, bon. On aurait plein de choses à dire. Hein. Alors, une question encore. Quand les anges ont-ils été créés ? Pour moi, ils ont été créés de toutes les façons avant la fin du septième jour. Tout à la fin. Au pire des cas. Puisqu'il est dit, ainsi furent achevés, ça c'est dans Genèse chapitre 2, verset 1er, ainsi furent achevés le ciel, la terre et toutes leurs armées. Les armées, c'est, il n'y avait pas d'hommes à l'époque. Les armées, c'est les anges. Donc ils ont été créés au moment de la création du monde. Bon. Mais on peut penser aussi qu'ils ont été créés le premier jour. Puisqu'il est dit, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est quoi ? La nouvelle Jérusalem, avec tous ses habitants, les anges. On peut penser que les anges ont été créés le premier jour. Et quand il est dit dans le livre de Job, au chapitre 38, quand Dieu a posé les fondations du monde, et les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et tous les fils de Dieu, chez Job c'est les anges, tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie alors que Dieu posait les bases de la terre. Alors quand Dieu a-t-il posé les bases de la terre ? Au premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Elle n'était pas parfaite, mais les bases ont été faites là. Donc, dès le premier jour, on peut supposer que les anges étaient déjà là. De toutes les façons, bon, on n'a pas des certitudes absolues. Ce n'est pas très grave. Le principal, c'est qu'il y ait des anges. Mais ce qui est sûr, c'est que au sixième jour, il y a quand même une parole qui revient dans la Bible souvent, c'est « Dieu a considéré tout ce qu'il a créé et il vit que cela était très bon. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une chose, le mal n'existe pas encore. Au sixième jour, il n'y a pas encore le mal. Et au septième jour, que voyons-nous ? Le serpent. Le mal est là. Donc le mal, les anges, on peut dire premier jour, et le mal est apparu fin du sixième jour, début du septième. Ce qui veut dire qu'il y a eu une chute. Les anges n'ont pas été créés mauvais, puisque Dieu a vu que cela était bon. Tous les anges ont été créés très bien. Mais il y a eu un événement, on en parlera rapidement tout à l'heure, qui a provoqué la chute des anges. Maintenant, peut-être un mot sur la place des anges dans le plan de Dieu. Pourquoi il y a les anges ? Parce que le but, c'est quand même l'être humain sur la terre pour servir Dieu dans l'éternité. D'abord, les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Attention, c'est notre supériorité, ça. Nous sommes créés à son image. Et quand il reviendra, nous serons semblables à lui. Mais les anges, non, ne sont pas créés à l'image de Dieu. Pourtant, il y a quelque chose de la beauté de Dieu et du Christ en eux, forcément, évidemment. D'ailleurs, le Christ ne s'est pas incarné sous forme d'ange, il s'est incarné en forme d'homme. C'est l'homme, l'être humain, l'homme et la femme, qui sont l'objectif pour Dieu. Ensuite, la place des anges, dire que nous régnerons sur eux. Nous régnerons sur les anges. Parce qu'on a quand même fait quelque chose, on a vécu quelque chose, on n'a pas fait grand-chose, mais on a vécu quelque chose qui nous a donné une supériorité. Et Jésus dit, on l'a lu tout à l'heure, nous jugerons les anges. Qu'ils ont fait des misères, qui nous ont tentés, qui nous ont fait chuter, qui nous ont fait pleurer, qui ont provoqué des troubles, des harcèlements, ils nous ont attaqués, on a passé une vie à se battre. Et nous jugerons ces anges. C'est mystérieux. Hein. Parce que déjà, on a du mal, l'apôtre Paul, il le dit, mais ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Les gens, entre vous, vous avez du mal à vous entendre. Alors comment ça va être quand il faudra juger les anges? Enfin, vous serez ressuscités. Amen. Ça ira mieux. Les anges, un texte important, Hébreux chapitre 1er, verset 14. C'est important ce texte. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés, enfin je paraphrase un peu, envoyés pour exercer un ministère, donc un service, pour aider ceux qui doivent hériter le salut. Ceux qui doivent hériter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore le salut. Mais Dieu voit d'avance que, lui qui connaît tout d'avance, qu'ils vont choisir le salut. Et les anges, déjà, les aident, les protègent. Ils ne les aident pas à être sauvés, il y a une protection. Je me rappellerai toujours ce monsieur dans la région de Lisieux, la région en Normandie. J'avais été visité, il était très âgé, il avait vu la guerre de 1940. Et puis, à l'époque, c'était quelqu'un qui ne croyait pas, qui était tout un homme, un paysan, tout bonnement. Et je vous l'avais dit une fois, et un jour, il entend, c'était le débarquement, et les bombes tombaient sur la Normandie d'une façon épouvantable, et il entendit une voix dans son cœur, « Sors de ta maison !» Il sort de la maison. Un obus, sur la maison. Il n'y a plus rien. Et lui était vivant. Et des années plus tard, on l'a rencontré à l'Évangile, et il nous a dit, « Comment se fait-il que j'ai été poussé, j'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit, « Sors maintenant !» Je pense qu'il y a un ministère des anges. Les anges ne peuvent pas se marier. Parce que la Bible, Jésus dit, « Dans le royaume de Dieu, vous serez comme les anges qui ne prennent pas de femme, d'homme. » Donc, on ne parle pas du sexe des anges. Ils n'auront pas d'enfants. Quelque chose d'important sur les anges, aucun des anges pécheurs ne sera sauvé. Vous y avez pensé parfois? Aucun ne sera sauvé. Ce qui montre pour moi la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Parce que nous, alors que Dieu n'a pas, là je cite 2 Pierre 2, 4, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme et ils sont gardés pour le jugement. Donc, ils ne sont pas sauvés. Et nous, eh bien, nous serons sauvés. On est moins qu'eux, dans un sens. Et nous serons sauvés par la foi en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, il est dit « Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. » Jésus n'est pas mort pour des anges. Il ne s'est pas incarné en ange. Il vient en aide à la postérité d'Abraham. C'est-à-dire à ceux, pas forcément dans la chair, hein, je ne suis pas un fils d'Abraham, mais à ceux qui ont la foi, le modèle de foi d'Abraham. Dieu leur vient en aide pour les sauver. Alors, les anges, dans cette histoire dramatique quand même, où ils ne seront pas sauvés, parce qu'eux, ils ont vu Dieu. Ils l'ont vu. Ils l'ont servi. Ils ont été avec Dieu pendant je ne sais pas combien de milliers d'années ou centaines de milliers d'années. Et bien finalement, ils l'ont refusé. Ils l'ont méprisé. Ils ont voulu faire une révolution pour être plus grand que lui. Il y a une main qui s'est levée, c'est la main de Nathan. Attends, bouge pas. Il y a un micro qui va nous aider à pas t'entendre, mais à capter.
Bon, par rapport au mariage des anges, vous avez dit les anges ne peuvent pas se marier, mais dans Genèse 2, en fait, il y a des versets qui disaient que les fils de Dieu, en fait, virent que les filles de la terre, en fait, les filles des hommes étaient belles et il y eut des géants sur la terre à cause de ces filles et de ces fils de Dieu qui sont descendus, donc je ne sais pas.
Bon, je vais le dire après, je le dis maintenant, pour ne pas te faire attendre. On a beaucoup réfléchi à ça, à ces fameux fils de Dieu qui ont vu que les fils des filles des hommes étaient très belles et puis se sont mariés avec. Sur le plan biblique, il est impossible que des anges se marient avec des humains en chair en os. Quoi. C'est impossible. Parce que ce sont des esprits. Je ne pourrais pas me marier avec un esprit. J'irai pas loin. Donc, bibliquement parlant, c'est impossible. Alors, la question, quelle est cette catégorie de fils de Dieu? Je pensais à quelque chose depuis longtemps, puis j'ai eu, en lisant des confirmations dans des ouvrages théologiques évangéliques intéressants, au niveau mondial, intéressants. Je pense que c'est la descendance de Seth. Non, Seth. Oui, S-E-T-H. Seth, enfant de Adam, il a eu une descendance. C'est la descendance du Messie. Attention! C'est la descendance qui va aller vers Jésus. Et qu'on voit la généalogie dans la Bible. Et c'était quand même des gens choisis par Dieu, des gens bien, des hommes bien. Et puis ces hommes, ils ont vu que les filles païennes étaient belles. Et ils se sont mariés. Donc ils ont mis en péril, pas seulement leur vie, mais ils ont mis en péril la continuité de l'histoire du salut. Et puis là, bien, il s'est passé un événement, c'est qu'il y a eu comme une malédiction. Ils ont enfanté des géants. Peut-être aussi pour arrêter la misère, pour ne pas que la famille de Seth, qui va vers David, qui va vers Jésus, Marie, etc., pour pas que cette famille se perde dans tous les méandres du monde. Alors on pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est beaucoup plus logique que de penser à des couples avec un ange et une fille. Quoi. Il y a des maris qui sont quand même des anges, remarquez. C'est vrai. Là, c'était les fils de Dieu. Donc, je reviens aux anges qui ont péché et qui ne sont pas sauvés. Donc, Dieu a créé deux créatures intelligentes. Les animaux aussi sont intelligents, mais deux créatures particulièrement intelligentes. Premièrement, les anges. Beaucoup ont chuté. Et Dieu a décidé de n'en sauver aucun. Il n'y a pas d'ange repentant. Deuxième classe de créatures, les hommes. Là, ce n'est pas quelques-uns ont péché, c'est tous ont péché. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais Dieu a décidé de sauver tous ceux qui veulent. Voyez-vous la différence? Quand je vois ça, je me dis, Seigneur, c'est formidable. Les anges qui ont péché, tu n'en veux pas, et nous qui avons péché énormément, plus ou moins, mais enfin un peu quand même énormément par rapport à lui, eh bien, tu nous fais une grâce inestimable de nous ouvrir le royaume des cieux. Les anges, les autres anges qui n'ont pas péché, il y en a quand même beaucoup, bon, il y a Gabriel, Michael, etc., et tous les autres, mais c'est beau parce qu'ils sont restés fidèles, mais jamais ils ne pourront chanter avec nous, nous te rendons grâce parce que tu nous as rachetés par le sang de l'agneau, par ta grande miséricorde, par le sang de Jésus, jamais ils pourront chanter ça, parce qu'ils ne sont pas au bénéfice de la mort de Jésus. Il n'est pas venu en aide aux anges, mais à la descendance d'Abraham.
Parce qu'ils sont esprits. C'est pas parce que les anges sont esprits et les hommes sont créés à l'image de Dieu.
Oui.
Donc, entre esprit et créé, il y a une différence.
Oui, il y a une différence. Mais Dieu aurait pu leur donner un...
à l'image de Dieu. Mmh. Christ, en venant, il a intégré le corps.
Ah oui, oui, oui. L'incarnation s'est faite dans l'homme.
Nous chantons à la gloire de Dieu.
Oui, oui.
Mais il est devenu comme nous.
Oui, mais Dieu aurait pu prévoir un moyen de salut pour les anges. Il aurait pu prévoir. Mais là, il n'a pas prévu. Et fait, comme vous dites, c'est très bien, il s'est incarné, il est venu dans l'homme, et non pas dans les anges. Donc l'homme a un rôle très particulier, parce que dès le départ, il était quand même central, l'être humain. Les anges nous voient nous repentir. Vous vous rappelez le passage de Luc chapitre 15, il y a de la joie parmi les anges pour un seul pécheur qui se repent. Ils nous voient nous repentir. Même les démons nous voient nous repentir. Et revenir. Et les anges, les bons anges, se réjouissent parce que les démons ne peuvent plus revenir. Et quand ils nous voient revenir pour bénéficier de la grâce éternelle, ils se réjouissent. Ça veut dire que quand on ne revient pas, ils ne se réjouissent pas. Donc les anges, par toute leur histoire un peu qui nous dépasse, c'est vrai, ils nous montrent la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et pour moi, je trouve que l'histoire des anges nous donne une certaine confiance dans le monde invisible. Il y a un monde qui nous environne. Il y a un monde qui nous défend tout en haut. Il y a des anges qui luttent aussi pour nous. Ça nous donne confiance. Je pense au prophète Élisée, quand il était devant, en Samarie, face au roi de Samarie, qui venait contre lui, eh bien, il a vu la montagne qui était entourée de chars et d'anges, et de chevaux. Donc il y a tout un monde invisible. Et dans le culte aussi, je vous le rappelle, nous nous approchons de la Nouvelle Jérusalem et des myriades d'anges. Les anges, pour nous, sont des exemples aussi. D'abord, au psaume 103, « Louez le Seigneur, vous ses anges, qui accomplissez toute la volonté de Dieu. » Ils accomplissent toutes les volontés de Dieu. Ceux qui ne les ont pas accomplies ne sont plus des anges. Ce sont des serviteurs de Dieu. L'adoration des séraphins, qui se voilent la face, qui ne sont pas des... Ce ne sont pas des artistes, mais ils se voilent la face devant Dieu. Et je trouve que tous ces modèles d'adoration, ces modèles de service, sont des exemples pour nous. Je pense à l'Apocalypse chapitre 5, l'apôtre Jean entend la voix de beaucoup d'anges, des myriades de myriades, qui disaient d'une voix forte, « L'agneau a été immolé et il est digne de recevoir, etc. » Donc tout ça, c'est des encouragements pour nous. Il y a tout un culte céleste. Les anges accomplissent aussi des plans de Dieu pour nous. Ils peuvent transmettre des messages de Dieu. Je pense à Gabriel, notamment, avec Joseph, avec Zacharie et Élisabeth, avec Marie. Les anges aussi, pour nous défendre, sont capables d'envoyer des fléaux sur la terre. Quand l'armée assyrienne est venue contre Jérusalem, et là, ça faillit que Jérusalem soit complètement rasée. Un ange est intervenu et le matin, il y avait des dizaines de milliers de morts dans le camp. Les anges sont intervenus pour défendre Jérusalem de la destruction. Quand le roi Hérode s'est cru le chef du monde, un ange a touché Hérode et il est mort. Donc, ils sont capables d'accomplir des actes de justice, de colère, de Dieu. Ils verseront les coupes de la colère de Dieu dans l'Apocalypse. Ils combattront les forces démoniaques de la fin des temps. Ils enchaîneront Satan et le jetteront lié dans l'abîme. Apocalypse chapitre 20. Les anges feront ça. Ce n'est pas Dieu lui-même, c'est les anges. Dieu, il agit par ses anges. Comme il agit dans l'Église, par vous et par moi. Parfois, on dit, Seigneur, tu vas faire. Ben, les grandes œuvres de Dieu, ce sont les anges qui les accomplissent. Et nous. Amen. Les anges, je vous l'ai dit, glorifient Dieu pour tout ce qu'il est, pour son plan de salut qu'ils observent. Parce que les anges, ils observent le plan du salut, ils le suivent parce que c'est l'accomplissement de la grandeur, de la beauté de Dieu. Par exemple, à Bethléem, quand Jésus est né, il y a toute une multitude d'anges. Parfois, on en dessine trois, ils étaient des milliers. Toute une multitude d'anges qui étaient dans la campagne de Bethléem et qui chantaient. Participe au salut. Je vous l'ai dit, pour un seul pécheur qui change de vie, se réjouisse. Donc, ils nous voient, ils connaissent nos vies, ils connaissent la valeur de notre conversion, ils connaissent notre sincérité. Ils sont très impliqués, sans bouger, sans crier, impliqués dans notre marche chrétienne. Et à travers nous, ils apprennent quelque chose. Ils apprennent la sagesse, la bonté et la compassion de Dieu, qu'ils ne connaissent pas comme nous. Parce que nous, on a été blessés, on a été dans la détresse, dans le malheur, et on a été relevés. Les anges n'ont pas vécu ça, mais ils le voient chez nous. Ils voient la sagesse et la bonté de Dieu sur l'Église. Et un texte important dans 1 Pierre 1,12, vous prenez note à chaque fois, j'espère, enfin vous aurez le CD. Ils plongent leur regard dans tout ce que nous vivons. Ils plongent leur regard dans l'histoire du salut et ils désirent, le grec dit, continuellement plonger leur regard pour regarder l'Église, ce qu'elle vit avec le Christ. Parce que eux ne le vivent pas comme nous. Ils plongent leur regard. Jésus a été vu des anges. C'est écrit dans 1 Timothée 3,16. Vu des anges, qu'est-ce que ça veut dire ? À la naissance, dans la tentation, les anges le servaient. Dans ses miracles, dans Gethsémané, à la croix, dans le tombeau, dans la résurrection. Il y a toujours eu des anges. Et ils ont vu. Je crois que tout le royaume de Dieu a vu le don de Jésus pour nous. Enfin, ça. Impressionnant de savoir que les anges observent notre vie. Vous y penserez ? Ils nous observent. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, 1 Timothée 5, verset 21, « Je te conjure devant Dieu, je te supplie devant Dieu, et devant Jésus-Christ, et devant les anges élus, observe ces choses. » Ça veut dire, Timothée, les anges verront ton obéissance. Parce que chez les anges, il n'y a pas toujours eu de l'obéissance. Les démons. Hein ? Donc je crois qu'il faut réjouir le cœur des anges, non ? Afin qu'ils chantent la gloire de Dieu en disant « Regarde tes enfants, Seigneur, comme ils sont fidèles et courageux et pieux, etc. » Bon, on va bientôt terminer sur les anges. Encore un petit mot. Je regarde l'heure. Quelle est notre relation avec les anges ? Premièrement, il faut qu'on soit conscient de la présence des anges dans la vie quotidienne. Tous les enseignements des anges dans la Bible sont toujours en rapport avec la vie. On ne sait pas ce qui se passe là-haut, mais on sait ce qu'ils font sur la terre à côté de nous. Ils sont associés à notre mission. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Hébreux chapitre 12. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Quand nous sommes dans les combats, dans les découragements, dans les tristesses, dans les deuils, les anges nous voient, nous regardent. Ils se réjouissent ou ils s'attristent. Les anges peuvent revêtir une forme humaine. Vous connaissez ce passage des Hébreux ? Quelques-uns ont logé, sans le savoir, des anges. Avez-vous déjà logé un ange ? Sans le savoir, vous ne savez pas ? Vous ne savez pas ? Moi non plus ? J'ai peut-être... Je me souviens, il y a quelqu'un, ça m'est... Oh, un enfant qui est... J'allais à l'école, j'étais au collège à l'époque, et puis il y a un enfant qui est sorti d'une rue, mais il faisait nuit, ça faisait encore un peu, c'était un peu la pénombre. Un jeune enfant, très, très beau d'ailleurs, il est sorti d'une rue, une petite rue très très étroite, puis il m'a dit « As-tu à manger ?» Et puis j'ai donné quelque chose à manger. Puis il est parti. Je ne sais pas, ça m'avait toujours impressionné. Peut-être que c'est qu'un gamin du quartier. Mais on ne sait pas. Bon. Enfin, ça m'avait cet enfant qui a surgi d'un coup, là, le matin, alors qu'il devait déjà être sur la route de l'école comme moi. Bon, enfin.